L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Mon grand-père disait toujours, il n'y a rien de pire que le jeu dans le jeu. Si comme moi vous êtes un joueur né, vous comprenez très bien ce que cette phrase signifie. Si en revanche vous prenez le jeu pour un loisir où tous les coups sont permis, vous devez trouver cette sentence bien inutile et pompeuse. Pendant une heure, aujourd'hui, l'atelier des médias va tenter de vous montrer que le jeu est une chose extrêmement sérieuse. Tellement sérieuse que mieux connaître l'univers ludique aujourd'hui, c'est probablement une des meilleures manières d'appréhender notre monde en mutation. Bienvenue dans notre atelier fait cercle aujourd'hui, grâce à notre invité, le jeune philosophe et sociologue Aurélien Fouillé. Faites vos jeux, rien ne va plus.
L'atelier des médias.
Alles Herr, ich sage das nur einmal.
On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut.
Und zur Arbeit.
Sacré Vénard.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur-là. Et chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la mention arme sur un carton accroché dans le dos.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Nous, on joue le rôle des traîtres méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant ceux qui ont peur perdent des points.
Tu vois, dans le monde réel, je ne suis qu'un simple géologue. Mais dans ce monde, je suis Falcorn, un défenseur de l'Alliance. J'ai traversé les mines de Far God Deep et vaincu le poisson vorace des plaines de Gérone.
On dirait que ce mec est triplé.
Nous vivons dans un monde incertain. La science, les technologies, l'internet en ont redessiné les contours, les possibles d'une manière radicale. Nous cheminons tous dans ces nouvelles réalités entourées des héritages vieillissants d'un temps de surconsommation, de violence, d'asservissement, sans savoir si nos pas mènent vers des sommets ou des tréfonds. Mais pourquoi nous raconte-t-il tout cela alors qu'il nous a dit qu'il allait parler de jeu aujourd'hui ? Parce que, et là, je cite mon invité, le jeu est un espace de remise en cause. Remise en cause de soi, remise en cause des valeurs et remise en cause d'une société. Il est donc un espace de renouvellement, un lieu des possibles, un pervers polymorphe en quelque sorte. Les cultures ludiques expriment ce vitalisme primitif qui anime de convulsions l'homme qui est face à la mort. Mort de soi, mort des autres, mort d'une société, peu importe, la société qui joue est une société qui apprend à mourir et devient une société de philosophes. Bonjour Aurélien Fouillé.
Bonjour.
J'ai ouvert ce livre, ton livre, L'Empire ludique, en imaginant un essai expliquant la manière dont tel jeu avait révolutionné le marché des MMORPG, c'est-à-dire les jeux en ligne massivement multijoueurs. Je pensais y lire une thèse sur la gamification, la ludification, cette tendance à mettre du jeu partout. Un chapitre peut-être sur le serious game, le jeu sérieux. Un autre sur le news game, le jeu informatif. Mes attentes sont restées vaines. Pour raconter le jeu, tu nous parles de notre monde, de la culture populaire, de la philosophie antique, du Moyen-Âge, de Flaubert, de Descartes, de Baudelaire, et tu écris des phrases comme celle-ci: la société qui joue est une société qui apprend à mourir et devient une société de philosophes.
C'est vrai que mon approche du jeu est un peu atypique peut-être par rapport à la façon dont on l'aborde aujourd'hui. Hein, on parle souvent du jeu vidéo comme un peu le sommet de l'iceberg. Moi, ma volonté au départ, c'était de pas me cantonner à une définition stricte, mais essayer de repérer justement toutes les manifestations du jeu dans nos sociétés. Donc dans le travail, dans le couple, dans l'apprentissage, dans la construction de l'identité, dans les rapports sociaux. Et finalement, ce que tu viens de citer, je trouve, est bien le symbole de ça. Et contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, quand je dis que c'est une société qui apprend à mourir, c'est pas quelque chose de triste. Au contraire, c'est une joie un peu tragique peut-être, mais c'est le côté hilar du mourant, c'est-à-dire celui qui s'aperçoit que sa vie est derrière lui et qu'en même temps, il y a un nouveau possible qui s'ouvre. Voilà.
C'est un passage.
C'est un passage, tout à fait, entre un modèle qui ne tient plus toutes ses promesses, qui les a tenues pendant un temps, et qui finalement aujourd'hui se retrouve confronté à de nouveaux défis, dont les technologies de l'information sont un des vecteurs, mais pas seulement. Si on regarde d'un peu plus près, finalement, ces technologies-là sont elles-mêmes le symptôme d'une transformation plus profonde, qui elle est culturelle, comportementale, sociétale, et c'est un peu de ça finalement dont j'essaye de parler dans mon livre.
Tu es philosophe, tu es aussi sociologue, c'est ça ? Pourquoi avoir voulu écrire sur le jeu ?
J'ai toujours été intrigué par ce qui était un peu à la marge, peut-être un peu déviant aussi, et notamment parce que j'avais eu un cours fabuleux dans mes premières années de philosophie sur Nietzsche. Et puis au fil du temps, j'ai découvert d'autres philosophes, notamment un qui s'appelle Jean-Marie Guyot, qu'on ne connaît plus beaucoup, pourtant c'est un des esprits brillants de la France du 19e siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction », qui a inspiré Nietzsche, très justement, donc j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur lui, et il m'a amené presque tout naturellement à me poser la question du risque. C'est-à-dire que dans nos sociétés, on est entouré par les risques. Il y a des risques de guerre, il y a des risques de catastrophes naturelles. On est dans une société, on pourrait dire, assurantielle, où on est envahi par les assurances. Il y a un sociologue allemand qui explique ça très bien, qui s'appelle Ulrich Beck, qui explique comment on passe finalement d'une société de croissance industrielle, dont l'objectif est de résoudre les problématiques de pénurie liées à l'habitation, à la nourriture et à toutes ces choses-là. Et comment finalement, une fois ça à peu près atteint, en tout cas dans le monde industrialisé, on a besoin de trouver une nouvelle dynamique de croissance. Et ce qu'il explique, c'est que cette nouvelle dynamique de croissance, c'est de produire des risques perçus, des risques imaginés, des risques objectivés par la statistique, par l'assurance. Et la conclusion de ce travail que j'avais fait, c'était finalement une éthique du jeu. Et donc il me paraissait normal de m'intéresser aux pratiques ludiques contemporaines pour essayer de comprendre comment la société, dans ce contexte de risque, bah finalement trouve des réponses ou pas à ce contexte de risque-là.
C'est étonnant parce que en lisant ce livre, j'ai repensé à une carte qui a circulé il y a quelques mois sur Internet où on voyait l'espace de jeu des enfants, l'espace de circulation des enfants autour de chez eux. Et on voyait que donc l'arrière-grand-père ou le grand-père pouvait circuler dans un périmètre de plusieurs kilomètres autour de son domicile, puis le père un peu moins, puis l'enfant, puis le petit-enfant, où là c'est quasiment le jardin autour de la maison. Et cette idée du risque et du jeu est un petit peu mêlé dans cette notion de territoire de jeu qui se restreint, avec les possibles du jeu qui grandissent en même temps.
Tout à fait. Bah, le jeu, c'est ce que tu rappelais au début de cette émission, c'est un espace d'expérimentation des possibles. Et donc, au début, quand on a un petit enfant, bah, on découvre beaucoup de possibles, mais du coup on limite l'aire de jeu, l'aire de risque, l'aire d'apprentissage, finalement pour qu'elle soit accessible. Et puis au fur et à mesure qu'on fait des expériences, qu'on apprend de nouveaux rôles, qu'on apprend de nouvelles règles du jeu, qu'on apprend aussi de ses erreurs, et ça c'est peut-être quelque chose dans notre société qui est assez nouveau, cette dynamique de l'essai-erreur, de la version bêta, hein, genre tous les logiciels qu'on a aujourd'hui, ils sont des versions 1.2.3.4, il n'y a plus de version définitive. Et donc l'aire de jeu s'étend à mesure finalement qu'on fait des mises à jour sur ce qu'on est capable et pas capable de faire.
Ce livre s'intéresse aux cultures ludiques actuelles, pour dire bref, au jeu, jeu au pluriel. Mais le jeu n'est pas une chose anodine et simplement frivole. Il est un marqueur, un espace dans lequel se fait la culture. Il est parfois désordonné, chaotique, brutal. L'ordre surgit du chaos.
Oui, alors cette idée que le jeu fait culture, le premier à l'avoir eu, c'est donc Johann Huizinga, qui est peut-être le père fondateur des études sur le jeu, qui a écrit ce livre célèbre qui s'appelle Homo Ludens, et dans lequel il montre...
Homo Ludens en latin, c'est l'homme joueur.
Voilà, c'est l'homme qui joue.
L'homme qui joue.
Un peu comme l'Homo sapiens, c'est l'homme qui pense. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de penser, on est d'abord des animaux qui jouent. Il montre dans ce livre que la culture, donc ce qui fait société, ce qui est en quelque sorte le fond commun à toute personne qui vit dans un groupe, ses règles, ses valeurs, ses imaginaires, ses figures héroïques, sont en quelque sorte filles du jeu. Et que les jeux sont très souvent, dans l'histoire humaine, des représentations de la société ou de l'univers. C'est un peu des sortes de cosmographies de l'environnement. Un des exemples que je prends dans le livre, c'est celui du jeu de Go, qui est un jeu donc chinois.
Un jeu de stratégie
aussi millénaire.
Que les échecs,
exactement.
Du même ordre.
Et qui représente la voûte céleste. Voilà. Même le jeu d'échecs, le jeu d'échecs, il représente la société médiévale de son temps avec le roi, la reine, le fou, la tour, le cavalier.
Et donc on voit des philosophies différentes parce que dans le jeu de go, les pions ne sont pas placés. Dans le jeu d'échecs, tout est bien placé, peut se déplacer d'une certaine manière et pas d'une autre, etc.
Tout à fait, oui. Il y a un rapport au territoire qui est très différent. Dans le jeu d'échecs, on joue sur des cases et chaque pion a des mouvements possibles. Au jeu de go, on joue sur des intersections. Les pions ont tous la même valeur. Et ce qui fait la valeur finalement d'un pion, c'est le réseau dans lequel il est connecté. Donc on voit que sur deux jeux de plateau qui sont très anciens, on a déjà deux conceptions différentes de la société, deux conceptions différentes des valeurs et des relations sociales. Et donc le jeu fait culture parce qu'il est en quelque sorte le fer de lance de nos imaginaires sociétaux.
Alors on va continuer à parler du jeu, on va même parler du jeu aujourd'hui, mais comme tu l'expliques dans la phrase que j'ai citée, l'ordre surgit du chaos, et ce chaos, c'est peut-être le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde extrêmement complexe, je l'ai dit au début, où on a toutes sortes de possibles qui s'ouvrent et où chacun, on peut le dire, se sent un petit peu perdu, ne sait pas trop dans quelle direction il faut aller, un monde où il faut repenser toute une série de choses, le vivre ensemble, pour beaucoup l'économie, etc., etc.
Oui, il y a quelque chose peut-être qui, moi, structure mon point de vue. C'est un texte de Lyotard qui s'appelle La condition postmoderne, où il explique que dans les années 60-70, il y a ce qu'on appelle la fin des grands récits. Alors qu'est-ce que c'est les grands récits ? C'est très justement les grandes histoires qui viennent structurer une société. Donc c'est par exemple les grands récits religieux, les grands récits politiques, les grands récits culturels. Donc ça peut être la religion catholique, ça peut être le libéralisme, ça peut être la démocratie. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces grands récits ont fait des promesses, notamment dans nos sociétés, des promesses d'émancipation et de libération de l'individu vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la tradition. Ça a marché un temps, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une forme de saturation de ces promesses. En tout cas, il n'y a plus de véritable correspondance entre ces promesses et la société actuelle. Et ce qu'explique Lyotard, c'est qu'on se retrouve donc dans un moment de creux où on n'a plus de grands récits qui nous aident à trouver notre place dans le monde. Et le jeu, finalement, c'est un espace dans lequel on va pouvoir construire, élaborer ensemble des micro-récits, des petites histoires pour trouver sa place dans le couple, dans le travail, dans la vie de tous les jours, dans le métro. Voilà. Alors, évidemment, c'est peut-être moins grandiloquent ou moins excitant que les grands récits religieux ou les grands récits politiques, mais peut-être que pour construire de grands récits politiques et religieux, il faut d'abord construire de petites histoires, et puis mises bout à bout, elles font une mythologie en quelque sorte.
Je te cite. L'homme contemporain se trouve souvent perdu au milieu de cette agitation et comme aspiré par une immense vacuité de la vitesse, donc l'accélération de l'histoire, il ne trouve plus le regard qui donne du recul. Il n'a plus accès à cette temporalité du ventre qui, du Moyen-Âge à Nietzsche, était la qualité du gentilhomme, du prud'homme, à savoir la rumination. La rumination, c'est-à-dire le fait de pouvoir réfléchir, c'est ça, prendre
oui,
le temps.
Bah, c'est prendre le temps de regarder passer le train.
Ce voilà. Livre offrira, je l'espère, à ses lecteurs cette expérience bovine qui fait tant défaut à l'homme moderne, à l'homme pressé.
Moi, quand je sois dans mes cours ou dans mon travail avec d'autres chercheurs, j'ai toujours, ou même quand je regarde la télévision, quand j'écoute la radio, j'ai toujours l'impression que tout va très très vite et que finalement, on ne sait pas très bien où mettre le curseur, on ne sait pas très bien comment se repérer dans tout ça. Et le sentiment que j'ai, c'est que on prend pas le temps de regarder un peu les grandes dynamiques, les grandes tendances. Et que si on s'arrête quelques minutes, on se rend compte que, très justement, l'Internet, qui est encore une fois le vecteur de cette accélération, ne fait que renouveler des formes très anciennes. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'Internet qui produit la transformation ou la révolution, mais qu'il est au contraire lui-même le produit d'une transformation et d'une révolution culturelle.
Tu le dis comme ça, mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas la technique qui transforme la société, c'est plutôt l'imaginaire d'une société qui permet à la technique de se développer dans telle ou telle direction.
Oui, il y a un exemple que je prends dans le livre, c'est celui de l'imprimerie, pour comprendre un peu l'analogie avec ce qu'on vit aujourd'hui avec ces technologies de l'information. L'imprimerie, on pense souvent que c'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Mais en fait, c'est pas Gutenberg, c'est les Chinois au 12e ou 11e siècle, je ne sais plus. Et pourtant, ça va pas prendre l'essor en Asie que ça prendra ensuite avec Gutenberg en son temps. Alors comment on peut le comprendre, comment on peut l'expliquer? Gutenberg, le premier livre qu'il imprime, c'est la Bible en allemand. Et pourquoi il imprime la Bible en allemand? C'est pour se faire l'écho de la réforme protestante qui veut que chaque croyant puisse interpréter le texte, et l'expression est ici importante, en son fort intérieur. Et c'est concomitant en fait de quelque chose de nouveau qui apparaît dans nos sociétés à cette époque-là, c'est-à-dire l'individu. Et justement, l'individu moderne de nos sociétés, il est compris, conçu, pensé, vécu comme un fort intérieur. Et d'une certaine manière, l'imprimerie va se faire l'écho, le vecteur de cette apparition de l'individu dans la société occidentale, et va démultiplier ses effets. C'est Hegel qui, quelques siècles plus tard, dira à propos de la presse que la lecture quotidienne de la presse, c'est la prière de l'homme moderne. C'est-à-dire que lire la presse, s'informer, se forger un esprit critique, c'est ce qui permet à l'homme moderne de devenir un individu. Et donc on voit bien ici comment une technologie, dans l'occurrence l'imprimerie, se fait l'écho d'une transformation culturelle et sociétale importante, qui est l'apparition de l'individu en Europe à l'époque de Gutenberg et de Descartes.
Petit à petit, et c'est là où c'est important peut-être de s'arrêter, de prendre un petit peu de temps, on se rend compte que, et ça c'est toi qui l'explique, que aujourd'hui la technique ne transforme plus véritablement le monde, elle nous met en relation avec lui. Les objets techniques, je te cite, sont de plus en plus complexes dans leur conception, ils sont de plus en plus simples d'utilisation. La Kinect de Microsoft, les téléphones d'Apple qui arrivent sans notice, etc.
Pour bien comprendre le décalage, je prends souvent l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père, il est né en 1929, il avait ni l'eau courante ni l'électricité, il n'y avait pas de voiture ou très peu. Et puis, il a vu finalement toutes ces transformations techniques arriver. Donc il y a eu d'abord l'eau courante, et c'est amusant, sa mère, quand on lui a dit où voulez-vous qu'on mette le robinet, elle a dit dans la cour, ce sera bien assez proche. Donc il a eu l'eau courante pendant très longtemps dans la cour et pas dans la cuisine. Et puis ensuite, quand une voiture passait, sa mère lui disait « Ah, va vite voir au bout de la rue, il y a une voiture qui passe ». Donc tout ça, c'est effectivement des progrès techniques qui ont amélioré notre quotidien avec l'eau courante, avec la vitesse de déplacement. Et donc il y a une forme d'imposition d'un modèle humain sur notre environnement. Une façon de bien comprendre ça, c'est de prendre un planisphère et de regarder la frontière entre les États-Unis et le Canada, de regarder comment les villes américaines sont construites avec cette idée des blocs, donc des rues qui sont perpendiculaires les unes aux autres, et où on voit bien qu'on a quelqu'un un espace abstrait sur un espace physique concret pour justement progresser, améliorer nos conditions de vie. Si on regarde aujourd'hui ce qu'est devenu l'objet technique, c'est plutôt un objet, comme tu le disais, qui transforme le monde, qui nous permet de mettre notre marque sur lui. Mais au contraire, c'est un objet dont la promesse n'est plus une promesse fonctionnaliste ou d'outils, mais est une promesse relationnelle. Un smartphone, effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus un hub, donc un élément de connexion entre soi et sa communauté d'amis ou de collègues ou de je ne sais trop quoi d'autre, plutôt que véritablement un objet qui remplit une fonction. D'ailleurs, un téléphone aujourd'hui, c'est plus un téléphone. Le téléphone est une des nombreuses fonctions que peuvent remplir nos smartphones. Et en plus de ça, il y a une dimension presque magique. Tu parlais de la notice, effectivement, notre culture technique, elle était plutôt celle du mode d'emploi. Dans les années 80-90, quand il y avait
le
catalogue d'emploi du magnétoscope, c'était aussi une source de pouvoir, d'ailleurs, dans le foyer. C'est-à-dire que celui qui savait programmer le magnétoscope, c'est celui qui choisissait si on enregistrait le match de foot ou l'émission de variété. Et aujourd'hui, effectivement, quand on achète un appareil électronique, il n'y a plus de mode d'emploi. Et on pourrait même dire que s'il y en a un, c'est une erreur du fabricant. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que justement l'objet technique vienne se greffer sur des usages, des pratiques qui sont déjà naturelles, on pourrait dire, pour nous. C'est d'ailleurs amusant de voir le design des smartphones. Si on regarde un smartphone éteint, moi ça m'a toujours fait penser au monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Une tablette.
Donc voilà une sorte de pierre noire un peu réfléchissante qui a plus les caractéristiques d'un objet étrange et magique que d'un objet technique tel qu'on avait l'habitude d'en connaître, en tout cas.
Votre connexion Internet fonctionne ?
L'atelier des médias.
Petit temps mort dans l'atelier, on se retrouve après un court passage par le vestiaire.
Nous nous ferons un plaisir de vous tenir informés dès que notre connexion Internet sera rétablie.
L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Aurélien Foulet, philosophe, sociologue, auteur de L'Empire ludique, un essai éclairant sur le jeu dans notre monde en mutation, publié aux éditions François Bourin.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous,
on est allé loin. On s'est beaucoup éloigné du jeu. On va parler encore de d'autres concepts qui sont importants pour comprendre ce qu'est le jeu, l'anomie, l'enromancement des concepts que tu manipules. Mais avant ça, on va revenir dans le jeu. Je vais demander à Simon de passer de l'autre côté du studio, c'est-à-dire de venir avec nous. Salut Simon. Parce que Simon est, comme beaucoup, un grand joueur. Il se reconnaît dans pas mal de choses que tu expliques dans le livre. Et il est venu nous parler donc de sa passion du jeu en général. Exactement. Et de sa passion d'un jeu en particulier.
Alors bonjour Ziad et bonjour Aurélien. Le 4 juin dernier, The Strong, le musée américain du jeu vidéo, a établi la liste des 6 jeux les plus importants de l'histoire du jeu vidéo. Parmi cette liste, Pong, Pac-Man, Super Mario Bros, Tetris, Doom et World of Warcraft. Sans être plus puriste que les puristes, j'aimerais réparer ce qui est pour moi une injustice. L'absence du jeu Minecraft. Si tous les jeux de cette liste sont fondamentaux, mythiques, Minecraft, plus récent puisque créé en 2009, mérite ici largement sa place, tant ses possibilités sont infinies.
Alors explique-moi ce qu'il a de spécial ce jeu.
Je sais pas toi, mais moi j'ai toujours préféré les Lego aux Playmobil.
Il faut que je te dise ce que je préfère, ouais. À ton avis.
Les Lego.
Non, les Playmobil.
Perdu.
Je suis pas sûr que ce soit très bien de préférer les Playmobil.
Je sais pas. D'un côté, les Lego, briques de plastique que l'on assemble pour fabriquer la maison, les véhicules ou tout objet qui vous passe par la tête. De l'autre, les Playmobil. Rien à construire, faites juste marcher votre imagination et inventez une histoire. Minecraft a réussi à mêler les deux. On retrouve l'univers brique de Lego, les montagnes ne sont que la somme de cubes, tout y est carré. Le paysage est naturel, lacs, prairies, laves, mais le plus intéressant se trouve sous la terre.
Oui, parce que Minecraft, ça veut dire littéralement l'artisanat de la mine, ça veut dire qu'on y fabrique des objets.
Exactement. Vous creusez d'abord avec les mains, mais très vite, vous trouvez des minéraux, des métaux, du bois, des pierres précieuses. Vous allez pouvoir ensuite mélanger ces éléments pour fabriquer des outils. Un abri, c'est essentiel, une armure et des armes. Je prends un exemple simple. Si vous avez récolté du bois et du charbon, vous aurez une torche pour pouvoir descendre plus profondément dans la mine. Puis prenez du bois et du métal pour fabriquer une pioche.
Et tu dis que l'abri est essentiel.
Alors oui et non. Il y a en fait plusieurs façons de jouer à Minecraft. En mode créatif, vous modelez le monde comme il vous semble. Construisez une maison dans un arbre, un palais souterrain, un régal pour les architectes en herbe. En mode survival, ça se corse. Vous pouvez tomber sur des monstres au fond de la mine, mais surtout dès que la nuit tombe. C'est pourquoi il vous faut un abri. Alors n'oubliez pas de fermer la porte. Et puis il y a un mode multijoueur qui, comme son nom l'indique, est un survival à plusieurs. Il faudra donc se coordonner par la parole avec votre casque micro pour faire un travail d'équipe digne de ce nom.
Créatif, individuel et par équipe, ça laisse effectivement la possibilité à toutes les sensibilités de se divertir. Il y a d'autres choses qui rendent ce jeu, donc Minecraft, original pour toi, Simon ?
Oui, alors ce jeu s'inspire du fonctionnement bien connu des développeurs du bac à sable, Sandbox. Un environnement dédié à tester, expérimenter, avant de publier un logiciel. Car dans Minecraft, il n'y a aucun manuel. On en parlait tout à l'heure avec votre invité. Seule l'expérimentation, la déduction ou le fait de regarder d'autres personnes plus expérimentées peuvent vous permettre de vous perfectionner. De plus, il existe de nombreuses extensions permettant de modifier le jeu, mettre une photo de soi sur votre personnage, modifier les textures de la pierre, du verre et de tout ce qui compose le jeu, mais aussi créer des maps, des univers pour les échanger avec d'autres joueurs. Certains vrais endroits ont même ainsi été recréés, c'est le cas de la Tour Eiffel, mais aussi de l'intégralité du Danemark par exemple. Et récemment, la possibilité de créer des aventures, des quêtes, a été ajoutée.
Quand j'entends ça, ça me fait penser à ce qu'on appelle les makers, ces gens qui préfèrent fabriquer, réparer, inventer eux-mêmes des objets et qui bien souvent les mettent à disposition du public sous licence libre.
C'est exactement ça. Minecraft est essentiel à mon sens parce qu'il développe l'imagination, la curiosité, l'inventivité, le tout au sein d'une communauté dynamique et prompte à s'entraider. Plus qu'un simple jeu, j'aime les valeurs que ce jeu peut développer chez les futures générations. Une version éducative existe pour les enseignants. J'ai trouvé des exemples d'utilisation chez ces derniers en cours de technologie au collège, comme dans les écoles d'ingénieurs. Ce jeu incarne également la réussite d'un développeur de jeux vidéo indépendant sur les majors du secteur. Alex Persson, alias Notch, qui a développé quasi seul le jeu, est désormais une personne extrêmement influente dans l'univers vidéoludique comme informatique. Après avoir monté sa propre boîte, Mojang, il a revendu en septembre 2014 Minecraft au géant Microsoft pour la somme de 2,5 milliards de dollars. Espérons que l'inventeur de Windows ne cherche pas à pervertir ou trop monétiser cet univers ouvert, intelligent et créatif.
Merci Simon.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
C'est intéressant hein, cet univers de Minecraft que je ne connais absolument pas. Je vois Simon de temps en temps se perdre dans un jeu. On découvre tout un univers, on découvre un monde en création, on découvre des talents et pour ne rien te cacher, je ne comprends pas grand-chose à ce qui est raconté. C'est-à-dire qu'on découvre aussi toute son ignorance face à des univers, des jeux qui valent des milliards de dollars. Enfin, c'est très impressionnant. J'imagine que toi, tu connais Minecraft.
Oui, alors je connais Minecraft et c'est vrai que Minecraft, c'est particulièrement intéressant du point de vue de quelqu'un qui essaye de comprendre le jeu, parce qu'effectivement, c'est vraiment, je crois, un jeu hybride. Il y a effectivement le côté Lego, donc qui renvoie à ces jeux de construction. Il y a le côté virtuel, évidemment. Il y a le côté multijoueur. Mais ça va même plus loin que ça, Minecraft. C'est-à-dire que souvent, on voit justement ce type de jeu où justement, et d'ailleurs tu l'as dit, on se perd dans Minecraft, comme on peut se perdre dans World of Warcraft ou dans n'importe quel jeu vidéo, où finalement on a l'impression de perdre son temps. En tout cas, quand le regard extérieur est celui de quelqu'un qui perd son temps à jouer. Et pourtant, dans Minecraft, il y a des dimensions artistiques, il y a des dimensions de makers, hein, vous en avez parlé aussi, qui vont au-delà de simplement le jeu frivole et sans intérêt. Et donc, un des enjeux pour moi justement de toutes ces pratiques ludiques, et dont Minecraft est un des exemples, c'est de bien comprendre que c'est de l'innovation, pas simplement au sens industriel du terme, mais que c'est de l'innovation dans nos pratiques quotidiennes.
Et c'est de l'innovation sociale, sociétale.
Tout à fait, culturelle, mais même c'est de l'innovation dans le registre d'apprentissage.
C'est de l'innovation et c'est en même temps quelque chose d'un peu mystérieux. Il y a un côté religion mystérieuse, initiée. Si le ludique ressurgit aujourd'hui dans le détournement de la technique et les superstitions quotidiennes, c'est peut-être bien parce que de nouveaux mythes se forgent. L'anomie du monde moderne a ouvert une béance que les communautés ludiques comblent de bien des façons. L'anomie, c'est l'absence de règles,
voilà,
c'est ça,
c'est, l'absence de règlement. L'alpha privatif du grec, et puis nomos, c'est la loi. Donc c'est l'absence de loi, de règles, de...
Et l'anomie du monde, en gros, c'est qu'on sait plus trop où on va et dans quel sens on va.
On sait plus trop où est notre place, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les grands récits, c'est que d'une certaine manière, on n'a plus de repères. Une des dynamiques pour retrouver des repères, c'est de retrouver du lien social. Et le jeu, ou les smartphones, ou Candy Crush Saga, ou Minecraft, c'est finalement des prétextes ou des contextes dans lesquels on va pouvoir se lier aux autres.
Tu as mentionné le mot addiction, parce qu'il y a aussi la question de l'addiction, il faut en parler, on ne peut pas oublier cette question. Et elle rappelle, tu l'expliques, l'addiction, la possession, si on reste dans ce registre du spirituel, des religions mystérieuses, des initiés. C'est-à-dire les gens qui sont possédés par ce nouvel univers.
Ben, l'addiction dans ce contexte-là, c'est-à-dire moi je suis pas psychologue, hein, je suis pas psychiatre, donc je m'interroge pas sur l'addiction de ce point de vue-là. Je m'interroge sur l'addiction sur qu'est-ce qu'elle veut dire socialement. Et d'une certaine manière, et là-dessus je suis assez d'accord avec Michel Foucault, c'est que nos névroses, les névroses d'une société, elles nous révèlent un peu l'attente, l'horizon d'attente des sociétés. Si au 19e siècle c'était l'hystérie, aujourd'hui on peut dire que un des problèmes de nos sociétés, une des névroses de nos sociétés, c'est l'addiction. Et l'addiction, selon moi, ça montre qu'on est en manque de liens.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Mauvais en haleine, loser en amour, 421. Ouais, je sens que ça vient, je sens que ça vient. Rouge ou noir, un cauchemar. Les mauvais jours, je suis mauvais joueur. Je sais, les bons jours courent toujours. Fauché jusqu'au striptease, je me retrouve à poil. Quelle bêtise, ce serait comme une mauvaise série à la Dallas. On m'appellerait le Black Gigi de Las Vegas. Et je regarde ma vie en pleurant.
Aurélien Fouillé, est-ce que tu connais Nicolas Baria ?
Non.
Il est blogueur, journaliste, il s'intéresse aussi à la sociologie. C'est un des pionniers de Second Life en France. Il a passé des mois, presque des années même, au lancement de ce jeu réseau, donc Second Life. Il a navigué dans Second Life. Mélissa Barra est allée le rencontrer. Le lancement de Second Life, c'était en 2003.
C'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé et puis qui m'a absorbé parce qu'en près de 3 ans, on va dire que j'ai fait que ça, donc c'était à la fois très intéressant mais aussi très prenant, c'est-à-dire c'était avant les réseaux sociaux, c'était quelque chose qu'on connaissait pas bien dans le monde du numérique en fait, en tout cas. Alors évidemment, Second Life a un peu souffert de son nom parce que Second Vie, ça pouvait paraître étrange à une certaine époque, mais aujourd'hui, tout le monde a un peu une seconde vie numérique, en l'occurrence avec les profils Facebook, etc. Second Life, ce qu'il caractérise, c'est que c'est une matrice, c'est-à-dire un lieu dans lequel on peut créer tout et tout ce qu'on veut. Alors c'est un monde virtuel, c'est un monde en ligne qui ne s'arrête jamais, qui est toujours là. C'est-à-dire qu'on pose, si on fabrique quelque chose il y a 10 ans, on le retrouve aujourd'hui. C'est un monde qui est toujours en ligne. Tout le monde est interconnecté les uns avec les autres. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec les jeux vidéo où souvent on a ce qu'on appelle des sites miroirs. C'est-à-dire en fait, chacun, il y a l'Europe qui se connecte là sur tel serveur, les Américains qui se connectent sur tel serveur et il n'y a pas de connexion entre les deux. Là, c'est un monde qui est entièrement connecté où tout le monde peut rencontrer tout le monde potentiellement. Même si évidemment, on ne compte pas tout le monde parce que c'est un monde qui est très vaste. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. C'était un territoire vierge.
C'était en quelle année ?
C'était en 2003. Et je suis tombé dessus un peu par hasard. Bon, ce qui m'a attiré, c'est que quand je suis arrivé à un moment donné au milieu d'un terrain un peu vide, il y avait une maison. Et puis j'ai voulu rentrer dans cette maison. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et puis on m'a dit, attends, je m'habille. Alors je trouvais ça très étrange parce qu'on est quand même des tas de pixels. Là, on est des avatars. Et puis la personne en face de moi avait de la pudeur. Et puis moi, j'avais du respect de ne pas rentrer, en fait, d'attendre. Donc j'ai attendu, effectivement. Et du coup, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, ça veut dire qu'on est incarné. C'est-à-dire qu'on a son corps à l'intérieur et qu'on va souffrir ou bénéficier, si vous voulez, des sentiments qui sont liés à notre corps, qui sont liés à notre personnalité, qui sont liés à plein de choses comme ça. Donc ça m'a intéressé tout de suite. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était un peu les humains qui investissaient les espaces informatiques en quelque sorte. Donc il y avait tout cet aspect-là qui était super intéressant, c'est-à-dire on fabriquait à mesure qu'on avait besoin de quelque chose en quelque sorte. Il y avait aussi beaucoup de communautés un peu bizarroïdes qui ne retrouvaient pas finalement. Bon, je prends un exemple, si vous êtes gothique et que vous baladez dans la rue, à part vos copains gothiques, vous n'avez rien de gothique autour de vous, donc vous êtes un petit peu en marge de la société. Par contre, si vous êtes dans un univers virtuel où vous pouvez tout créer, vous pouvez créer votre maison gothique, petit déjeuner gothique, toutes les activités, vous pouvez les transformer en quelque chose de gothique et là, vous vous sentez pleinement investi dans votre communauté, en quelque sorte.
Qu'est-ce que ça t'a appris, Second Life ?
Eh bien, une certaine sérénité, c'est-à-dire que, on va dire qu'il y a un côté un peu méditatif à être dans ce type d'environnement par rapport aux jeux vidéo, où il y a une espèce d'action permanente. Ça m'a appris aussi sur la sociologie en fait des gens en ligne, comment les gens se comportent en ligne, comment une société en ligne se développe. Enfin, je dirais que c'est un territoire d'observation assez extraordinaire. Donc il y a cette espèce d'aspect. Et qu'est-ce que ça traduit, comment ça se traduit aujourd'hui par retour dans le monde d'aujourd'hui, enfin dans notre monde. C'est-à-dire en fait il y a des comportements, on va dire, qu'on trouvait dans Second Life il y a quelques années, qu'on retrouve aujourd'hui, évidemment au travers des réseaux sociaux, même sur des aspects purement économiques, avec les imprimantes 3D, les choses comme ça. Il y a plein de choses. À un moment donné dans Second Life, il y a eu un problème parce qu'il y avait quelqu'un qui avait créé un objet qui copiait tout. Alors, si on copie tout, comment on fait pour bâtir une économie? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va retrouver ça peut-être avec les scanners, les imprimantes 3D. On va devoir adresser ce problème parce que, voilà, où est-ce qu'on va trouver des modèles économiques à partir du moment où tout, finalement, peut être copié de manière... voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à étudier, à regarder. Et, bon, la société, en plus, dans ses connexions, sont des sorties, finalement. Donc, finalement, c'est assez positif.
C'était Nicolas Barial, il est blogueur, journaliste et amateur de Second Life qui existe toujours, hein, cette plateforme créée en 2003, cette seconde vie. Il dit tellement de choses intéressantes, oui, que c'est difficile d'y revenir. Il fait écho à tellement de choses qui sont expliquées dans le livre. Il y a tout dans ce témoignage, donc c'était recueilli par Mélissa Barra.
Oui, il y a alors déjà l'idée de la seconde vie. C'est très intéressant sur la façon dont on construit son identité. C'est-à-dire que traditionnellement, notre identité, j'en parlais tout à l'heure avec Gutenberg, c'est le produit de notre fort intérieur. Donc ça veut dire que mon identité, elle m'appartient. Elle est éventuellement héritée, c'est-à-dire d'une éducation, d'un milieu social, voilà, mais elle m'appartient et elle est l'expression de mon intériorité, donc de mes états d'âme, de mes pensées. Second Life, avoir une seconde vie, la logique de l'avatar, donc ce personnage virtuel, où, bah, ça déplace la question de l'identité. C'est-à-dire qu'on peut choisir de n'afficher qu'une partie, par exemple, de son identité. Et l'exemple des Cotiques ici est très intéressant, parce que, très justement, c'est plus simplement choisir de montrer une partie de son identité, c'est montrer une partie de son identité en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et donc ça veut dire que l'identité n'est plus simplement quelque chose qui est mon expression, mais c'est d'abord une sorte d'aller-retour entre ce que je suis moi intérieurement et ce que la situation me demande ou me fait afficher. On pourrait dire qu'il y a, du coup, on passe d'une logique de sédentarité identitaire, c'est-à-dire que quand je vais à la plage et que mon patron m'appelle sur mon téléphone, bah finalement je reprends mon identité de travailleur, donc ça c'est la sédentarité identitaire, et on passe à une logique de nomadisme identitaire. C'est-à-dire qu'on change d'identité au gré de sa journée, au gré de sa vie. Et finalement, on peut assumer des identités contradictoires. On peut être père de famille, jouer à World of Warcraft, je sais pas, être fan de Johnny Hallyday et aller sur des forums de jazz. Bref, on peut assumer toutes ces identités-là, en les compartimentant ou pas, peu importe. Mais du coup, on passe par une logique de sincérité multiple. On est sincère quand on est dans World of Warcraft, on est sincère quand on est sur LinkedIn, mais on voit qu'en tout cas, l'identité se fragmente.
Est-ce que tu connais Life, Aurélien?
Alors oui, je crois, si on pense à la même chose.
C'est un réseau social lancé par des jeunes parisiens. Il y a un an, Manon Mella a rencontré l'un de ses fondateurs.
Bonjour, donc Thomas Letcher, je suis cofondateur de Life, l'un des quatre cofondateurs. Life, c'est un moteur de défi. Dans le jeu vidéo, on appelle ça l'achievement. Le principe est très simple, c'est la possibilité de prendre des défis ou d'en donner à des personnes en les défiant du coup sur la réalisation de ces défis.
Quoi comme défi, par exemple?
Un truc tout bête, faire son premier tatouage, faire son premier voyage au Japon. Après, ça peut être vraiment n'importe quelle thématique. Le principe étant que ça reste réalisable.
Pourquoi avoir emprunté ce principe-là, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le jeu, et l'avoir appliqué à la vie réelle?
Le principe du jeu vidéo a été souvent décrié comme étant quelque chose qui introvertit les gens par rapport à un monde virtuel. L'idée, c'était clairement de reprendre exactement les mêmes codes, mais de dire on peut très bien jouer dans la vie réelle. Le but étant de rendre vraiment attractif des choses simples de la vie réelle. Donc vraiment, Life a cette ambition de faire sortir les joueurs dans le monde extérieur. D'ailleurs, il y a pas mal d'initiatives qui se font comme ça. Il y a des jeux maintenant en réalité augmentée sur les téléphones par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Ce qui fait l'intérêt du jeu vidéo, c'est les codes, les normes du jeu vidéo. Alors au-delà du monde fantasmagorique qui aide à s'évader et à appréhender un monde différent que le monde quotidien, le principe du jeu est quelque chose qui effectivement emporte. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est si prenant? C'est parce que il y a des objectifs non-stop, il y a des étapes à franchir de façon régulière, et ces étapes emmènent toujours le joueur vers des quêtes secondaires, ce qui lui permet de clairement trouver un sens dans chaque minute qui passe dans le jeu vidéo.
Est-ce que vous avez une question à poser à Aurélien Fouillet, donc, qui a écrit L'Empire ludique?
Ma question serait clairement orientée par rapport au monde de l'entreprise. Le principe de gamification est, au niveau du nom, quelque chose qui parle beaucoup aux entreprises. Par contre, moi je me suis rendu compte qu'ils en avaient une appréhension au niveau terminologique, par contre au niveau sémantique, ils en sont très très loin. C'est-à-dire que pour eux, la gamification, c'est un truc qui est cool, qui est actuel, qui est tendance, mais pour lequel ils n'ont aucune idée de comment le mettre en place. Donc le principe de gamification est un vecteur fort. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont à même de supporter ce genre de produit et ce genre de philosophie, parce qu'il y a une philosophie derrière? Ça, c'est une vraie question que je me pose par rapport aux entreprises, certes françaises, et également internationales.
Beaucoup de choses encore oui, une fois. J'allais dire la boucle est bouclée presque parce que on est passé de Second Life, la vie virtuelle, à Life où c'est un projet. On comprend à quel point c'est articulé quand on entend ce jeune homme expliquer toute la logique derrière le projet. On comprend aussi à quel point c'est intelligent et on entend à la fin l'entrepreneur qui se demande comment est-ce que l'entreprise qui s'intéresse au concept à la mode gamification, c'est-à-dire ludification, comment l'entreprise envisage ce concept, est-ce qu'elle peut vraiment s'y adapter et est-ce qu'elle comprend tout ce que ça implique?
Les entreprises françaises et les entreprises dans le monde sont toutes très intéressées par la gamification, notamment par rapport à quelque chose qui a été dit juste avant, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, finalement, effectivement, on veut plus perdre sa vie à la gagner. Et donc, on veut retrouver du plaisir dans le travail. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose, c'est l'éthique hacker. Alors les hackers, on pense souvent que c'est ceux qui peuvent détourner des avions avec des ordinateurs. Ça, c'est pas les hackers, c'est les crackers. Donc il faut faire le distinguo. Les hackers, c'est ceux justement qui, au travers de l'informatique notamment, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi du biohacking aujourd'hui, qui veulent, par l'intermédiaire du bricolage, du braconnage, du détournement d'objets, de codes, de pratiques, rendre le monde plus beau. Et donc finalement, cette idée de Life, de rendre le monde plus beau par des défis, ça se fait en quelque sorte l'écho de toute cette éthique hacker. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que les technologies de l'information et de la communication dans lesquelles nous baignons aujourd'hui sont le fruit de cette éthique hacker. Et je trouve ça très intéressant, ce projet Life, parce que finalement, l'idée de rendre le monde plus beau par des petites choses, bah, c'est quand même beaucoup plus efficace et pragmatique souvent que de vouloir justement, par une logique contestataire brutale, transformer la société.
Moi, ce témoignage, ça m'a fait penser à Georges Simmel, donc le philosophe allemand que tu cites dans ton livre, tu cites son ouvrage « Philosophie de l'aventure », je lis cette citation. Il se peut que la vie dans son ensemble apparaisse comme une aventure. Il n'est pas nécessaire pour cela d'être un aventurier ou d'avoir vécu beaucoup d'aventures particulières. Celui qui a cette attitude spéciale devant la vie doit sentir que celle-ci, dans son ensemble, est dominée par une unité supérieure, laquelle s'élève au-dessus de la totalité immédiate de la vie, comme elle, à son tour, s'élève au-dessus des épisodes particuliers qui constituent nos aventures quotidiennes.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans le rapport du jeu à l'aventure et de la vie à l'aventure, c'est que l'aventure, c'est ce qui doit venir. C'est aventura, c'est ce qui doit advenir, en quelque sorte. Et effectivement, on peut voir dans ces pratiques ludiques l'envie de faire advenir quelque chose. Souvent, on parlait tout à l'heure de l'opposition réel-virtuel. On voit le virtuel comme quelque chose qui n'a pas lieu. Mais si on regarde dans la philosophie du Moyen-Âge, le virtuel, c'est ce qui est potentiellement là. Et donc, finalement, le jeu, c'est un espace qui est potentiellement là, dans lequel on peut justement faire l'expérience d'autre chose. C'est le cap-à-cap dont on parlait précédemment. C'est le jeu de la marchande quand on est petit, où on joue à la marchande. C'est le faire comme si aussi. Et finalement, le curseur de l'aventure, il est très large. Et à l'autre bout de la chaîne, à mon avis, le versant négatif de cette aventure, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'addiction. C'est-à-dire le moment où c'est plus l'aventure pour se lier aux autres, pour raconter une histoire ensemble, mais c'est au contraire l'aventure addictive où on se perd et où on détruit en quelque sorte son environnement.
Où est-ce que ça nous mène cette transition finalement, puisque c'est un peu ça que tu expliques, le jeu est une transition?
Moi je crois que ça nous mène vers quelque chose de tout à fait réjouissant et positif, c'est-à-dire que, alors c'est peut-être pour le meilleur et pour le pire, mais jouer c'est faire l'expérience qu'un autre monde est possible. Il y a une chose que tu as évoquée tout à l'heure, c'est cette idée de l'enromancement, qui pour moi est fondamentale.
L'enromancement, c'est mettre du roman, romancer.
C'est ça, voilà, c'est un mot qui vient du Moyen-Âge. Et en fait, on parle d'enromancement pour les chevaliers. Il se trouve qu'au cours du Moyen-Âge, il y a une stabilisation des royaumes un petit peu, et donc il n'y a plus de guerre. Et du coup, les chevaliers se retrouvent un peu abêtis devant leur position sociale. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire appel aux troubadours pour raconter leur vie, pour en romancer leur vie. Et c'est donc là qu'on voit apparaître les légendes arthuriennes, la chanson de Roland, les épées magiques, et toutes ces choses-là. Et un des personnages clés pour comprendre l'enromancement, c'est Emma Bovary, dont tu parlais avec Flaubert tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui arrive à Emma Bovary? bah, elle s'ennuie. Et c'est pas simplement un ennui, je sais pas quoi faire, c'est un ennui qui relève de l'angoisse existentielle, on pourrait dire.
Et l'ennui, sur lequel tu reviens beaucoup, que crée énormément nos sociétés où tout est fourni et on n'a pas besoin.
Tout est uniformisé, tout est rationalisé. Donc oui, il y a de l'ennui, il y a plus de surprises. Et finalement, une société du risque, c'est une société où on a besoin de retrouver aussi, justement, un peu d'excitation et d'aventure. Et donc, Emma Bovary, qu'est-ce qu'elle fait face à cet ennui? Elle s'invente une vie.
C'est ce qu'on appelle le bovarisme.
Le bovarisme, exactement. Bref, elle va véritablement s'inventer des personnages. Et je crois que aujourd'hui, un des ressorts qu'ont nos sociétés pour recréer des grands récits, c'est justement cette logique d'enromancer notre vie.
Merci Aurélien Fouillet.
Merci.
L'Empire ludique, c'est un essai éclairant et tu t'amuses d'ailleurs à la fin à te moquer un petit peu de Descartes et de sa perception du Dieu. Il est publié aux éditions François Bourin. À bientôt.
À bientôt.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission 385 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beut, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barat, Ilette Sadaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur RFI.fr, Soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir ou de vous déplacer dans la ville ou la campagne, vous faites bien. Partagez cette pratique autour de vous, le podcast, et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio comme iTunes, par exemple. Salut à toutes et à tous.